À propos du dossier Freemobile et de l'itinérance 3G, vous estimez que vous êtes très opérationnellement optimiste, si j'ai bien compris, pour que les opérateurs trouvent un accord entre eux. Dans les dernières déclarations de Free, lorsqu'ils ont présenté leurs résultats semestriels, ils ont clairement indiqué qu'il y avait un blocage sur ces questions-là, et qu'ils évoquaient éventuellement un règlement. Voilà, c'est ça. Merci Marco. J'aurais voulu savoir si on peut effectivement arriver à cette issue où il y aura, vous estimez a priori qu'il y aura une possibilité de trouver un consensus sur ce dossier.
Écoutez, ce que je disais, c'est que j'étais clair. L'itinérance de 2G allait aboutir assez vite. Là-dessus, je n'ai pas de question, c'est un droit. Donc, sur l'itinérance 3G, il est évident qu'à un moment donné, je suis pratiquement sûr qu'à un moment donné, un opérateur, je ne sais pas lequel, dira j'ai plus d'avantages à accorder l'itinérance 3G à Free, qu'il finira de toute façon par obtenir par un moyen. Contractuel ou par l'intervention de la puissance publique, et d'empêcher la location qui sera importante sur le trajet. Ce que paiera Free à l'opérateur qui est sur référence trajet, c'est une somme importante. Donc il y a un moment donné, c'était assez un peu des jeux qui dira j'ai plus, c'est comme aussi la gestion des lignes d'attente, hein, j'ai plus d'avantages à signer qu'à ne pas signer. Donc c'est ce qui me rend raisonnablement. Optimiste. Alors maintenant, s'il y avait un blocage durable, je ne pense pas, mais faisant cette hypothèse, eh bien, il appartiendra à Free de saisir soit l'autorité de la concurrence, soit l'ARCEP, chacun dans leur domaine respectif de compétences. Donc, y a-t-il, par ce comportement individuel ou collectif des concurrents de Free, y a-t-il un problème de concurrence? Qui a dit des choses dans un avis récent sur ce sujet, où il saisira l'ARCEP au titre de l'accès, des droits d'accès, traitement aurait pu être différent. Mais, je répète, j'espère pas, mais au-delà, j'espère pas, je pense pas que ce soit nécessaire d'en arriver là.
Donc, je m'intéresse au financement du plan très haut débit, donc, et la préparation de la réglementation. Donc, vous êtes exprimé très récemment sur ce sujet en parlant d'une taxe. Vous n'êtes pas favorable à une taxe sur
les fibres.
Voilà, donc vous êtes exprimé là-dessus. Donc les collectivités rurales attendent un financement pérenne du fonds PINTA, donc du fonds de péréquation. Et justement, vous avez évoqué tout à l'heure dans la partie très haut débit mobile les redevances du dividende numérique. Et ça faisait partie des demandes aussi d'éventuellement d'un financement pérenne, donc de recevoir les dividendes des attributions des fréquences qui pourraient alimenter ce fonds d'une manière relativement pérenne.
Alors sur le second point, je voudrais le choix. Enfin,
c'est une idée dans les possibilités.
Il appartiendra au gouvernement et au Parlement de savoir ce qui le fait des recettes liées aux ventes des fréquences dividendes numériques, de l'ensemble des fréquences qui vont être attribuées au cours de l'année prochaine, 2011. Les choix qui avaient été faits jusqu'à maintenant étaient plutôt de les utiliser pour abonder le budget du ministère de la Défense, qui, dont une grande partie des bandes 800 étaient des bandes précédemment utilisées par le ministère de la Défense. Ça, c'est des choix qui appartiennent au gouvernement et au Parlement de faire. Pour la question plus générale du financement et du déploiement de la fibre optique, notamment dans les zones moins denses, je profite de votre question pour préciser ma position, puisqu'elle a été totalement déformée par une dépêche de l'AFP. Et je veux dire que je suis assez. Je pense que les journalistes, à juste titre, attendent du professionnalisme de la part des administrations, et les administrations attendent aussi un minimum de professionnalisme de la part des organes de presse, notamment de celui que je viens de citer. Et je trouve assez étonnant que sur un sujet où un député présent avait parlé à un autre député qui a contacté l'AFP, l'AFP ait fait un article qui n'avait aucun sens et qui me prêtait des propos sans même avoir l'idée de m'appeler ou d'appeler Jean-François Hernandez pour vérifier cette information. Donc ce point est dit et je voulais le dire, parce que je trouve ça assez inadmissible. Alors sur le fond du sujet, donc quelle est la position que j'ai exprimée? J'ai fait un communiqué de presse rectificatif hier après-midi, vous avez pu lire, c'est extrêmement simple. La question m'a été posée par plusieurs parlementaires, et c'était tout à fait normal, celle que vous m'avez posée, comment financer de façon pérenne le déploiement de la fibre optique dans les zones moins denses. Alors pendant un certain nombre d'années, c'est le fonds d'aménagement numérique du territoire, doté par emprunt d'État, et c'est largement doté, qui va permettre, dans le cadre du plan national très haut débit, de financer par des procédures, je vais en parvenir, mais que vous connaissez, d'abonder l'action des politiques locales pour financer le déploiement de la fibre optique dans les zones moins denses. Pendant 3, 4, 5 ans, on peut penser que le crédit du fonds PINTA suffira. Alors après, comment financer le. Si l'État continue à estimer utile d'abonder l'intervention des politiques locales, comment trouver ces financements? C'est un. Le gouvernement a demandé au sénateur de Moret de réfléchir à cette question. J'ai vu adopter par Moret. Et donc, j'essayais de répondre à cette question aux parlementaires avant-hier qui me posaient cette question à l'Assemblée nationale. Alors, un parlementaire me évoquait une piste qui a été évoquée à plusieurs reprises par les parlementaires, par les politiques locales, par les opérateurs, qui est une taxe sur le cuivre. Taxe sur le réseau de cuivre de France Télécom. Alors, d'une certaine façon, l'expérimentation de cette idée a été faite en 2009 au travers de la réforme de la taxe professionnelle, puisqu'elle a constitué à créer une taxe sur le cuivre qui s'appelle l'IFER, et dont le résultat quand France Télécom, quand il y a une taxe sur le cuivre de France Télécom, l'application des règles juridiques et économiques conduit à ce que cette taxe se déverse sur ses concurrents au travers des marchés de gros, inexorablement. Bon. Le gouvernement a, dans le cadre de l'audit sur la réforme de la taxe professionnelle, a demandé à l'inspection des finances de revoir ce qui avait été prévu initialement, parce que ce n'était pas du tout l'objectif visé. L'objectif, c'était que France Télécom, qui au travers de la réforme de la taxe professionnelle avait une baisse importante de sa taxe professionnelle, est une taxe qui s'y substitue, et non pas qu'elle la fasse payer par ses concurrents pour une grande part. Et sans doute qu'une réforme sera faite par le Parlement dans la loi de finances qui sera applicable à compter du 1er janvier 2011. C'est tout ça pour dire qu'une taxe qui serait mise sur la paire de cuivre de France Télécom, donc que paierait France Télécom, serait payée pour les deux tiers par transvasement par ses concurrents au travers des marchés gros. Premier problème donc, qui n'est pas forcément vu par personne qui. Proposer cette taxe sur la paire de cuivre. Deuxième problème encore plus embêtant, je dirais paradoxal, c'est que cette taxe sur la paire de cuivre, elle va être payée très longtemps par les habitants des zones peu denses pour lesquelles la fibre optique n'arrivera que dans 5, 10, 15 ans, ou peut-être jamais pour certains d'entre eux, et elle sera payée ou jamais ou pendant très peu de temps par les habitants des zones urbaines très denses, puisque pour eux la fibre optique arrive déjà ou va arriver très très vite. Donc c'est quand même paradoxal de demander aux habitants des zones peu denses, qui vont avoir la fibre optique très tard ou jamais, de payer pour accélérer le déploiement de la fibre optique des zones les plus denses. Donc c'est l'effet contre-productif de cette fausse bonne idée, c'est l'expression que j'ai employée. Alors à cela, les parlementaires assez convaincus d'ailleurs, parce que je leur avais répondu, ils m'ont dit « Mais alors, que faut-il faire ?» Quand il y a des dépenses que l'État veut financer, il y a ce qu'on appelle le budget de l'État, et donc il y a des impôts généraux, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la société, la TVA, qui ont 90% des recettes de l'État, 300 milliards d'euros de recettes. Si l'État si le gouvernement et le Parlement estiment qu'il y a un intérêt prioritaire et stratégique à favoriser le financement de la fibre optique, notamment des zones peu denses, eh bien, il pourra décider dans 3-4 ans de consacrer 300-400 millions d'euros par an de crédit de l'État pour financer la fibre optique. La solution que je préconise, c'est celle-là, puisque j'ai une vision assez simple, assez classique de ce qu'est le budget de l'État. Et j'ai ajouté que je n'étais pas favorable, comme je l'avais déjà dit d'ailleurs à deux reprises publiquement, à la création de taxes spécifiques affectées. Et en fiscalité, une taxe spécifique affectée, c'est quelque chose de très précis, c'est une taxe qui est appliquée à une part particulière d'un secteur économique qui est affectée à un type de dépense spécifique. L'un et l'autre devront avoir un lien logique, sinon ils sont sanctionnés au plan européen. Voilà. Alors, ayant répondu cela, le même parlementaire est revenu une troisième fois à la charge en disant très bien, mais en fait, si vraiment on crée une taxe, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, j'ai répondu que je n'étais pas favorable pour la troisième fois à la création d'une taxe spécifique, mais que puisque c'est un peu quelqu'un qui vous met le couteau sur pistolet sur la tempe en disant est-ce que vous préférez la peste ou le choléra ? Alors, donc j'ai fini par répondre que si vraiment il voulait absolument créer une taxe dans un contexte où la TVA sur les activités du secteur s'accroît, ce n'est pas une très bonne idée. Si vraiment il me posait la question, la moins mauvaise de ces taxes, ça pourrait être une petite taxe sur l'ensemble des abonnements fixes et mobiles. Voilà ce que je veux dire et ce qui est décrit dans le communiqué de presse rectificatif que je vous ai. Et si d'ailleurs vous voulez vérifier, vous demandez à l'Assemblée nationale de vous passer l'enregistrement de mes déclarations. Un peu moins résumé que je viens de dire.
J'avais une question concernant la montée en puissance des offres Quantum Play. Oui. Est-ce que vous craignez que ça risque de figer encore davantage la concurrence sur le marché mobile et de compliquer encore la tâche des MVNO?
Je pense que ça, comme tout paquet, comme tout paquet multi-service, si je puis dire, ça a un avantage. C'est plus simple, ça peut apparaître aussi plus intéressant sur le plan économique, parce que souvent il y a des offres attractives, mais ça rigidifie le marché.
Oui, dans le rapport que nous avons fait sur l'application de la loi Châtel, justement, à la page 40, vous avez un paragraphe qui s'appelle « Surveiller les pratiques contractuelles associées aux offres quadruple service ». Et donc c'est cette idée-là de risque sur la fluidité du marché avec un marché mobile dont chacun sait qu'il n'est pas très fluide, et donc de taches d'huile qui se répandraient au marché triple play, qui aujourd'hui est considéré comme plus fluide, qui nous paraît effectivement présenter un risque. Et vous trouverez les éléments d'appréciation, effectivement, les premiers en tout cas, dans ce rapport, à la fin.
Je voulais revenir sur les discussions entre Free Mobile et ses concurrents. Si j'ai bien compris vos propos, en cas d'une saisie soit de l'ARCEP, soit de l'autorité de la concurrence, vous avez les moyens d'imposer aux opérateurs l'itinérance 3G, même si cela n'est pas prévu aujourd'hui réglementairement. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième sur la 4G, pourquoi avoir choisi de séparer l'attribution des licences de 6 et 800 et pourquoi ne pas l'avoir fait simultanément comme en Allemagne?
Alors sur le premier point, on a la capacité de régler un différend sur l'accès entre Free et un opérateur auquel il demanderait l'accès à un réseau 3G au travers de l'itinérance et qui le refuserait si les règles, si les préliminaires prévus par la loi ont été respectés. C'était une pré-discussion, des propositions, etc., un blocage de la discussion. Nous sommes compétents pour traiter de ce sujet. Après, nous devrons examiner, et donc c'est recevable, je veux dire. Après, voir de quel, compte tenu des arguments et des éléments qui seront mis sur la table sur le plan factuel et juridique par, dans cette hypothèse, par Free et par l'opérateur qui lui refuse l'accès à l'itinérance projet qu'il demande, je serai amené à voir si en droit et en fait, nous pouvons ou pas imposer cet accès. Ça, je ne peux pas préjuger toute la question. Ce que je peux dire simplement, c'est que c'est un sujet que nous pouvons traiter. Alors, sur les modalités d'attribution des différentes bandes de fréquences de 4G, de téléphonie mobile et 4e génération, là, effectivement, il y a une différence. Alors, d'abord, comme je vous l'ai dit, nous, certains opérateurs et ou certains d'autres acteurs publics autres que l'ARCEP privilégiaient des attributions très nettement séquencées. Hein. Certains d'ailleurs disant il faut d'abord commencer par le 2-6 et puis ensuite faire le 800 un an après. ou d'autres disant, certains opérateurs notamment, n'importe lequel, disant l'inverse. Il faut commencer par le 800 et puis ensuite faire le 26. Nous avons estimé qu'il était souhaitable de faire les deux en même temps, au sens que nous, comme je vous l'ai dit, nous allons en décembre rendre public, c'est le gouvernement qui homologuera et rendra public, publiera le document. Enfin, en décembre sera rendu public les règles d'attribution des deux bandes de compétences en même temps, et elles seront donc parfaitement cohérentes, puisqu'elles seront dictées par à la fois sur proposition de l'ARCEP et rendues publiques par le ministre. En charge de ces questions, et elles seront attribuées successivement, mais vraiment séquentiellement, avec même un tuilage, comme je vous l'ai dit, le 2-6, le début des délais de dépôt des candidatures sera un mois de décalage, donc c'est vraiment très très peu de choses, au départ, un mois de décalage au départ pour les dépôts, et après le délai pour prendre les dossiers sera plus court pour le 2-6, c'est plus simple, plus long sur le 800, ensuite à une attribution du 800 deux ou trois mois après le 2-6. Mais c'est quasiment, si vous voulez, en même temps. Alors, je termine de répondre. Ce qui a été fait en Allemagne, c'est d'attribuer tout ce qui restait comme fréquence, en gros. Ils ont vidé leur tiroir en une fois. Ce qui... je n'ai pas d'opinion particulière sur savoir si c'est bien ou mal. Il peut aussi y avoir des spécificités dans certains pays en termes d'offres et de demandes, de besoins. C'est pas forcément mettre sur le marché en même temps tous les biens donc, qu'on veut vendre sur un marché quelconque, immobilier, fréquence ou fruits et légumes. C'est pas forcément l'optimum, comme ça, quand on réfléchit un petit peu, même sans faire de la théorie économique très avancée. Mais bon. Deuxièmement, les objectifs fixés par le régulateur allemand pour l'utilisation de la bande 800, qui est quand même le cœur de cette affaire, ne sont pas du tout ceux qui seront retenus en France, compte tenu à la fois de ce que le gouvernement a fixé comme objectif de la bande 800 et de ce que le Parlement a renforcé dans la loi fracture numérique de décembre 2009, puisque la bande 800 doit être attribuée pour faire du très haut débit mobile, en particulier sur les zones les moins denses du territoire. Or, la bande 800 en Allemagne, et ça, effectivement, je le souligne, parce que c'est très peu souligné dans ce qu'on lit habituellement, a été... l'obligation qui était faite aux opérateurs qui demandaient à obtenir la bande 800, c'était de faire du haut débit, et pas du très haut débit, extrêmement différent, même s'il y a forcément un recouvrement entre l'eau et le très haut débit, mais c'est pas du très haut débit, c'est haut débit dans les territoires limitativement énumérés par chaque lender comme étant prioritaire, et dans lesquels l'eau débit n'arrivait pas par d'autres voies technologiques, c'est-à-dire fixe ou satellitaire. Donc ça veut dire qu'on est à deux ou trois niveaux d'obligation en dessous de ce que sera les objectifs fixés dans le cadre réglementaire pour l'attribution de la bande 800 en France. Donc je crois qu'il faut comparer ce qui est comparable. Et dans ce contexte, on a estimé que l'organisation que je vous ai décrite, c'est-à-dire de fixer le cadre général en même temps, de lancer à un mois près les appels à candidature en même temps et d'attribuer à d'autres trois mois près en même temps, avec, comme je l'indiquais, le fait que les attributions de la bande 2-6 seront connues quand avant la fin du dépôt de la bande 800, permettait aux acteurs économiques d'avoir un comportement rationnel, si je puis dire.
Vous avez presque répondu à la précision que j'allais vous demander, à savoir, est-ce que entre l'attribution de la 2-6 et l'attribution de la 800, les opérateurs auront-ils la possibilité de modifier leur offre?
Ben, ils auront la possibilité de la modifier, puisqu'ils ne l'auront pas déposée. Ils la déposeront un mois. Ils ont un mois entre la date à laquelle on dit voilà quels sont les opérateurs qui ont les différents lots de la bande 2-6. Et la date limite pour déposer les candidatures à la bande 800. Donc il y aura effectivement, on l'a souhaité qu'il y ait, pour les raisons que vous avez en tête, ce tuilage. Peut-être sur ces questions de bande.
J'avais une question concernant donc le recalcul de la TVA sur les forfaits triple play qui semble acquise. Hier, la secrétaire d'État à l'économie numérique s'inquiétait d'une flambée des prix un peu plus supérieure à ce qui serait serait prévu par les opérateurs. Est-ce que vous aurez un moyen de surveiller, d'agir là-dessus, ou est-ce que effectivement ce sont les opérateurs sont venus faire ce qu'ils veulent, donc
il n'y a pas de contrôle des prix de détail des télécoms en France, ni par le gouvernement, ni par le régulateur. Donc les opérateurs font ce qu'ils veulent, mais enfin ce qu'ils veulent dans leur intérêt n'est pas non plus de faire flamber exagérément ces prix, parce qu'il n'est pas certain que il y avait une révolte des consommateurs d'une façon ou d'une autre. Donc, on leur conseille quand même de rester raisonnable s'ils doivent augmenter ces
sommes. Et juste une question sur la montée des débits, l'offre de France Télécom.
Il y aurait une concurrence entre eux. Donc, de toute façon, ouais. Si un d'entre eux se mettait à augmenter de 10 euros, comme les autres ne suivront pas,
D'accord. Et juste une question sur la montée des débits et l'offre de France Télécom que vous avez évoquée tout à l'heure. L'autorité de la concurrence est quand même prononcée deux fois contre cette proposition. Est-ce qu'à ce jour, France Télécom a modifié, a affiné son offre pour à la fois satisfaire les autorités de la concurrence, le régulateur et l'attente des ruraux qui n'ont ni fibre optique ni haut débit potable?
Oui, sans vouloir paraphraser de la concurrence, je ne me permettrai pas. Attendez, j'essaie. Voilà. Ce que disait l'autorité de la concurrence, c'est qu'il y a aujourd'hui sur le marché du haut débit, et c'est ça dont on est en train de parler, une concurrence qui s'exerce avec des opérateurs alternatifs qui ont investi dans un certain nombre d'endroits. Et globalement, il est clair que quand vous avez sur un NRA, quel qu'il soit, des opérateurs alternatifs qui sont venus sur le site de France Télécom, si France Télécom se mettait à dire « Ah bah tiens, là, je vais faire de la montée en débit, sous-entendu, et puis, qui même me suivent, si je peux employer cette expression-là, il est clair que les autres opérateurs perdraient leurs clients et leurs investissements, et qu'en l'état, c'était pas bon pour la concurrence. » Donc ce sur quoi Jean-Ludovic Licani vous a dit que nous travaillions avec eux, c'est de définir les conditions dans lesquelles France Télécom pourra effectivement organiser la montée en débit et, entre guillemets, amener avec elle pour que cette concurrence puisse se reporter éventuellement dans les endroits où, effectivement, le sous-répartiteur sera devenu répartiteur et donc il y aura des offres plus intéressantes pour les consommateurs en matière de débit. Donc, ce sur quoi nous travaillons, parce que Jean-Ludovic vous a dit, d'ici la fin de l'année, ce sera complètement clair. Ben c'est bien de ces modalités-là, les mesures d'accompagnement, qui permettront de respecter les objectifs de l'autorité de la concurrence avec lesquels nous sommes d'accord. Nous ne souhaitons pas que cette montée en débit conduise à un amoindrissement de la concurrence significative dans un certain nombre de zones.
Alors, nous sommes d'accord, pour redire les choses complémentairement, nous sommes d'accord avec les objectifs de l'autorité de la concurrence. Peut-être qu'elle a défini un périmètre, un champ d'application de ses objectifs un peu large. Nous pensons qu'il y a des territoires où la fibre optique va arriver que très tardivement et où tout de suite, d'ailleurs c'est déjà commencé, déjà entendu, peut se faire. Il y a des territoires où la fibre optique va arriver très vite et où on déconseille vivement à la fois aux opérateurs et aux publics locaux de faire de la montée en débit parce que ça serait du gaspillage d'argent public. Les finances publiques locales ou nationales ne le permettent moins que jamais. Et par ailleurs, il peut y avoir des risques d'être d'État dans un certain cas. Et puis, il y a des zones intermédiaires qui sont surtout celles sur lesquelles nous travaillons actuellement avec France Télécom, les opérateurs et les sur les collectivités locales, où il est possible de faire une montée en débit, mais sous réserve de respecter un certain nombre de règles et de mesures d'accompagnement. Voilà un petit peu. Donc, il y a trois étages de la fusée. Un où on déconseille vivement de faire, un où on peut faire tout de suite et ça se fait déjà, et un où il faut faire un travail complémentaire, en plus de l'offre de France Télécom, qui est très correcte, qui a été rendue publique en juillet, et pour la mettre en œuvre et sur lequel nous travaillons, et les travaux vont s'achever dans deux mois. Donc, voilà un petit peu. Et d'ailleurs, on a réexpliqué toutes ces questions, on a revu la situation des élus, la France, sur ces questions comme sur le sujet, et bon, je crois que certaines incompréhensions, malentendues d'origine, ont été maintenant levées.
J'avais deux questions. La première,
porte sur les relations avec les consommateurs et le quadruple play, pour rebondir sur la question précédente. A priori, les offres de quadruple play sont faites pour baisser le taux des abonnements, donc pour rigidifier le marché. Est-ce que vous envisagez quelque part de sectionner les différentes composantes du quadruple play? Il est évident que les trois composantes du triple play sont technologiquement liées. Par contre, l'offre mobile n'est pas technologiquement liée. Est-ce qu'on peut envisager de dire d'obliger l'opérateur d'avoir un engagement sur le triple play de X mois, par contre que l'engagement sur la partie mobile soit réduite? Et deuxième question sur la neutralité de l'Internet, je voulais savoir un petit peu ce que vous pensiez de l'accord qui a été signé cet été aux États-Unis entre Google et Verizon, parce qu'a priori ce sont quand même les États-Unis qui donnent le la en matière d'Internet. Et je voulais savoir si vous ne craignez pas que ça se passe aussi en France, parce qu'on a l'impression que les deux parties américaines citées ont fait cet accord pour justement que les pouvoirs publics ne mettent pas leur nez dans leurs affaires. Merci.
Sur le quadruple play, ce que vous dites est possible sur le plan intellectuel, technique ou économique. Peut-être qu'on le recommandera dans ce que l'on dira à l'automne, ça je ne sais pas, on peut anticiper sur les travaux que nous menons, mais c'est sans doute une rigidité supplémentaire par rapport à la fluidité du marché qu'on souhaite accroître. Mais si ça devait être imposé aux opérateurs, ça ne pourrait être que par la loi. Seule la loi pourrait obliger un opérateur à structurer un contrat en différenciant la partie fixe, le triple play, la partie mobile. Ce qu'il y a sur ces rigidités qui réduisent la fluidité du marché, à mon avis, il y a trois éléments sur lesquels il faut agir. Effectivement, il y a la combinaison de plusieurs offres qui est un facteur de rigidification, qui a aussi des avantages à chaque fois, mais sûr, il n'y a pas que l'inconvénient. Si il y a des inconvénients, on ne voit pas pourquoi c'est très bien. La deuxième, c'est la durée des abonnements, qui est trop longue, souvent, mais bon, et la difficulté de l'envier. Et puis, le troisième point, c'est le lien qui existe entre le service et le terminal. Alors, là-dessus, Free a indiqué quand il a déposé sa demande de licence, que l'offre qu'il ferait quand son réseau fonctionnerait distinguerait clairement l'abonnement au service et sur le terminal, ça serait sûrement un problème. C'est sur ces trois paramètres qu'il faut agir, à mon avis, mais on ne peut l'imposer, ça ne peut être imposé que par la loi, sûr. C'est une atteinte aux libertés contractuelles. Sur la neutralité, je vais laisser Nicolas répondre. Juste un mot, vous dites que les États-Unis donnent le la en matière d'Internet, les situations économiques et concurrentielles n'ont rien à voir entre les États-Unis et l'Europe. Il faut se garder de dupliquer, non pas parce que c'est mal par a priori, mais simplement les situations sont différentes. Donc, mieux ça prend.
Oui, tout à fait. L'exemple des États-Unis est à prendre avec mesure. Le bon côté dans l'accord Google-Verizon, c'est que c'est une piste d'autorégulation de la neutralité. Ça montre quand même que les acteurs peuvent se mettre d'accord. Nous, ce qu'on souhaite à l'ARCEP, c'est non pas interdire qu'un opérateur puisse proposer des canaux prioritaires à un grand fournisseur de services et un menu d'offres premium. Il n'y a rien de haïssable en soi là-dedans. Simplement, il ne faut pas que ça se fasse au prix de la dégradation de l'accès à l'Internet standard, l'Internet ouvert public. Donc il faut trouver, comme tu disais, la bonne ligne médiane d'équilibre entre des modèles d'affaires, entre des prestataires de la société d'information, c'est-à-dire les fournisseurs de contenu, d'applications de services, et des opérateurs, des services gérés des opérateurs, des services plus ou moins fermés, réservés, marchands, payants, d'un côté, et puis de l'autre côté, le maintien d'un accès ouvert et neutre à l'Internet public. Alors évidemment, il y a des dangers parce que si toute la bande passante est mobilisée par des services gérés ou par des canaux prioritaires, il n'y a plus rien pour l'Internet ouvert. Et donc, il faut effectivement y veiller. Alors, un facteur favorable en France, en Europe, par rapport aux États-Unis, en France notamment, c'est le fait que la concurrence entre les FAI produit pour résultat vertueux que si l'un d'eux dévidait très fortement, ses clients migreraient vers les autres. Et deuxième facteur qui va nous aider, c'est les pouvoirs que vont nous donner la transposition, que va nous donner la transposition des directives européennes. D'une part en matière de transparence, parce que plus c'est transparent, plus justement cette concurrence entre les FAI peut jouer et autodiscipliner le marché. Et d'autre part, en matière de règlements différents. Si tout va bien, dans un proche avenir, on devrait être en mesure de pouvoir trancher des différends entre un fournisseur de contenu ou un fournisseur de services d'un côté, un FAI de l'autre. Donc à mon avis, il faut se méfier d'une importation brutale du modèle américain sur le cas français, et européen généralement, et il y a des bonnes raisons d'être optimiste qu'on arrive à suivre la ligne médiane qu'indiquait Jean-Louis Deloutte.
Oui, Nicolas a souligné un point que j'avais oublié tout à l'heure dans l'orientation générale, c'est l'outil nouveau que le nouveau paquet télécom donne aux régulateurs, dès lors que ça sera transposé, et c'est dans le projet actuel de transposition préparé par le gouvernement, donc qui donnera aux autorités de régulation la possibilité de régler des différends, non plus seulement entre opérateurs télécoms qui ne seraient pas d'accord entre eux, mais entre opérateurs télécom et fournisseurs de contenu et de services. Et donc, ça permet d'entrer, d'avoir un outil juridique pour traiter le marché de gros amont des relations entre fournisseurs de contenu et opérateurs télécom que nous n'avions pas vraiment aujourd'hui. Et c'est un outil essentiel pour assurer un outil de régulation de la chaîne de l'Internet.
Un des points clés de la proposition de Google et de Verizon, c'est d'établir une distinction assez nette entre les réseaux mobiles et les réseaux fixes. Est-ce que pour des raisons de niveau de développement, est-ce que c'est une distinction qui semble faire sens au niveau européen et français?
Je dirais qu'au plan du principe, il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire la philosophie de la neutralité doit être exactement la même, quelle que soit la technologie. La notion de neutralité, le principe de neutralité, est un principe qui est technologiquement neutre. Mais maintenant, la réalité des faits, la réalité technologique, fait que, déjà dans un réseau mobile, vous avez une mutualisation de la boucle locale, qui fait que les contraintes de capacité sont pas les mêmes, et que donc certaines contraintes techniques existent sur les réseaux mobiles qui n'existent pas sur les réseaux haut débit, a fortiori sur les réseaux très haut débit, et qui font que la réalité de la neutralité, notamment en termes de pratiques de gestion de trafic, sera probablement assez durablement différente sur les infrastructures mobiles et sur les infrastructures fixes. Donc, pas de différence dans le principe et dans les orientations, les propositions que formulera l'ARCEP, mais en revanche dans la réalité des choses. J'avais employé lors du colloque de l'ARCEP un mot qui a été malheureusement interprété, qui était celui de quasi-neutralité, qui veut bien dire ça, la quasi-neutralité, c'est le plus de neutralité possible compte tenu des contraintes, et notamment les contraintes technologiques.
Question sur la fibre optique, mais dans les zones très denses. Le dernier baromètre de l'ARCEP a montré que le nombre d'abonnements avait du mal à décoller. Vous étiez plein de cette situation, enfin, vous aviez constaté cette situation au printemps. Qu'est-ce qui bloque selon vous sur ce marché? Est-ce que le cadre réglementaire n'est pas devenu un véritable monstre pour les opérateurs, ce qui les empêcherait de vraiment se lancer dans les relations avec les syndics ou avec les copropriétaires?
Je compléterai. Écoutez, non, le cadre européen, il a été demandé par les opérateurs, et c'est absolument pas le cadre réglementaire, et il ne traite absolument pas de la part relation de détail entre l'opérateur et le client pour savoir s'il s'abonne ou pas. C'est l'avantage qui traite des relations de gros et de mutualisation et de co-investissement entre opérateurs. Donc là-dessus, ça marche très bien. Le cadre réglementaire est excellent puisque, malgré ou grâce à ce cadre réglementaire, je pense que grâce à lui, s'il l'attendait, les opérateurs ont postérieurement à ce cadre réglementaire, en février, en publiant leur offre d'accès à leur co-investissement et en mai-juin en annonçant leur programme d'investissement, co-investissement mutualisé pour l'année qui vient, ont montré qu'ils jouaient totalement le jeu. Donc ce cadre réglementaire, il est au contraire, après avoir respecté la norme 2009, et non seulement respecté, mais est vertueux, puisqu'il permet le co-investissement et le raccordement des lignes au logement. Ce qui ne fonctionne, qui est bloqué pour l'instant, c'est le marché de détail, c'est-à-dire le fait qu'un opérateur propose à un client un abonnement ou qu'un client demande un abonnement à un opérateur. Et c'est sur quoi j'avais insisté au printemps en m'étonnant et en étant un peu déçu de ce décalage qui pour l'instant existe toujours. Il n'y a toujours que 10%, même si le nombre de raccordements s'accroît et sensiblement le nombre d'abonnements toujours de l'ordre de 10%, le nombre de foyers abonnés n'est que de 10% du nombre de foyers raccordés. Je l'indiquais avant votre arrivée, qu'il y avait à la fois un attentisme des consommateurs compte tenu de la qualité des offres actuelles au débit et des tarifs bas, même si je vous montre un peu comme je dis qui vient. Donc le consommateur, les consommateurs que nous sommes, ne sont peut-être pas spontanément, pas spontanément envie d'avoir un fil de plus qui perce notre porte d'entrée et qui parcourt notre salon pour un service dont on ne voit pas encore qu'est-ce qu'il va apporter de beaucoup plus que le service actuel, mais ceci est en train de basculer. Et puis côté opérateur, chacun un peu attend l'autre pour faire cette action commerciale qui a un coût et ce qu'il nous indique, ils attendent qu'il y ait des masses critiques par un quartier ou par commune suffisantes pour faire une action commerciale et pour déployer des abonnements de façon significative. Donc on peut penser que comme il faut un investissement qui est quand même significatif pour faire arriver les fibres jusqu'aux immeubles, aux appartements, et que si ça ne leur apporte rien vu qu'il n'y a pas d'abonnement, qu'à un moment donné, je pense qu'ils l'ont compris déjà, mais ils se diront qu'il faut qu'ils passent à avoir des recettes et donc avoir des abonnés. Donc on peut penser que l'année qui vient sera vraiment après. Nous avons, disons en 2009, l'année 2010 sera l'année du démarrage de l'investissement et de raccordement, c'est le cas. Je dis aujourd'hui avec le même espoir que ça se réalise que l'année 2011 sera l'année du démarrage effectif des abonnements.
J'ai deux questions, c'est à propos de l'Adopi. Oui. Je voulais savoir si vous ne pensiez pas que les opérateurs n'ont pas à financer la mise en place du dispositif riposte la réponse graduée. Il estime que c'est l'État. Que pense l'ARCEP sur ce point? Et deuxième question qui c'est sur le recours devant le Conseil d'État. Est-ce que vous estimez ou pas que l'ARCEP aurait dû être consulté sur le fameux décret, la procédure à suivre par les failles? Merci.
Alors, je vais être très bref dans ma réponse. Sur le premier point, l'ARCEP pense qu'il faut appliquer la loi, appliquer la loi, et nous souhaitons que la loi soit appliquée. Sur l'aspect de financement, la loi dit des choses sur ce sujet, donc comme tout le monde, comme vous, je pense, nous souhaitons que la loi soit appliquée. Et puis sur le second sujet, je n'ai pas à apporter d'appréciation sur un contentieux en cours devant le juge administratif. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Madame. Oui.
Alors, pour les zones maintenance, écoutez, nous avons transmis et rendu public à nouveau le projet de cadre réglementaire. Les zones, ce sur quoi porte le projet dont vous parlez, c'est 90% du territoire, c'est-à-dire c'est essentiel. Nous l'avons rendu public et transmis à l'autorité de la concurrence en juillet, donc la concurrence va nous remettre son avis d'ici à la fin du mois de septembre. Quand nous l'aurons, nous verrons que les types d'ajustement qu'il convient de faire compte tenu de l'avis de l'autorité de concurrence, et nous transmettrons à la Commission européenne, donc d'ici à la fin octobre, je pense, et nous devrions avoir l'avis de la Commission en novembre, et donc mettre au point le projet définitif d'ici à la fin novembre. Et la publication interviendra dans les jours qui suivront. Donc, c'est à peu près le même calendrier que celui des zones très denses, mais décalé d'une année. Donc.
D'accord.
Voilà, le cadre sera connu. En tout cas, avant la fin de l'année, si possible, avant la fin novembre.
D'accord.
pas d'autres questions, je vous remercie.